suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir et merci d'être là à ce rendez-vous du Club de la Presse. Nous sommes au jeudi 22 février de l'année de grâce 2024. Il sonne 11h passées de quelques instants sur La Nouvelle Génération. Merci de nous recevoir chez vous dans ce quatrième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. La mise en onde de l'émission est assurée par Michel Vitogbe et Tomiga. Comme toujours, Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis au micro Pascal Lossou. Nos salutations fraternelles à tous ceux qui nous suivent à l'intérieur du pays grâce à nos radios partenaires, notamment Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales. Vous le savez très bien, et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Confrères journalistes, vous savez très bien que nous sommes au jeudi. Jeudi, l'équipe de jeudi est en place. Magloa Kinvi, Teko, bonjour.
Bonjour à toi, cher ami et confrère Pascal. Bonjour, confrère ici présent et bonjour, Canal FM.
Voilà. Jean Le Grand Polirini, bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour, confrère. Bonjour, technicien derrière la baie vitrée. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent sur les ondes de Canal FM.
Ambroise, bonjour. Bonjour.
Oui, bonjour, Pascal. Bonjour, les confrères ici présents et l'invité. Bonjour, les auditrices et les auditeurs qui nous suivent actuellement.
Effectivement, nous aurons, vous l'avez évoqué, nous aurons comme invité dans cette émission l'honorable Jean Kissi. Honorable, bonjour.
Bonjour, bonjour, chères auditrices et auditeurs de votre belle radio. Mais un bonjour spécial à tous les journalistes, à tous les directeurs des médias pour le travail dur que vous faites au Togo. Ça mérite qu'on le dise. Bonjour et félicitations et du courage à vous.
Merci
La
beaucoup.
Période va venir où vous aurez les conditions des journalistes comme au Rwanda, comme en Afrique du Sud, comme au Cap-Vert. Ça va venir.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous écouter. Et merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Chers confrères, vous savez, hier, 21 février, c'était la journée internationale de langues nationales. Langue nationale, on va faire cet exercice très simple. Hein. Magloa, oui, tu as salué des gens tout de suite en français, et tout comme moi. Et je voudrais quand même que tu dises un mot dans ta langue maternelle. La langue maternelle surtout. Dis au moins salue alors les auditeurs dans ta langue, surtout maternelle.
Vous avez dit bien la langue maternelle.
Et bien évidemment, la langue maternelle.
D'accord. Mesdames, prénoms Pascal Lossou. Medivemato mon koko ki jima adobina no nyebe pumito pite pese upume acho kumbala medugwena kuma topite medugwena amical des ressortissants de Bala le medugwena jeune solidaire de Balavio pour le Canal FM medugwena topite heli myanko sel gaupugmea medugwena ro
Makare di bay ne balato l'encosse onya nyane blenlia. Bon Jean le grand Polirini, vous aussi vous allez dire un mot en langue maternelle bien sûr.
Pascal Apetaka Dinamilo.
Je pense que c'est bon. Alors voilà Ambroise.
Eh moi donc ben to dino no kata. Et je recevais monsieur me font nuer mieux en mieux font et mieux recevait nuit au milieu les miens veut du mais à redagbe madame monsieur mais et bien d'accord mais notre le technicien au la meilleure toujours notre la meilleure doit Tommy c'est mieux après n'y a pas de jour mieux en oui comme mieux bon les n'y a qu'un n'y a pas de jour on tient comme mieux bon là mieux canne bon là et de que de han comme mieux on l'entit mie cho kafu kafu le bubuna iho ale si okatata
enyo mi da kweno chan kanadi be amayo le mission to ver commence nuine
to sengonye ima e do bena fonye me la fonye me so je prévenu là
honorable
do bena oui mi on mi jo le doublon gbe ye ko ambrose mi jo le doublon gbe
enire
ajo wevo donc en jama do bena afla uto kule mishinto veto lwa miano wa tegbioso madochi aflau madova koro mishinto ve mio be famia eva no mishinto ve ye ho mishinto ye nanto funa to mishinto ve so uha omini so ubwati so upre do bwati omini donc mio be ko po teru miano no nti mio kule ambrazo
le gamano no
yo studio se yema
Mkani zibe Eyi ya nyimu inimi ya midula onaisei Doa miyabe gbewa midula dona bubu nchi Eyi miya doa si yoko nchi vewe toa ima C'est vrai nous sommes presque à fait d'habitude nous parlons plus à le français là nous allons revenir
bien heureux je viens talk le bien nobe ben tu vas tu le quand même
OK merci je pense que le décor est planté hein comme cela alors c'est vrai pour le premier sujet hein, sur lequel nous allons discuter avant quand même de discuter avec l'honorable Kissi dans ce studio bien sûr nous allons faire le petit débat d'abord et hein, avant d'y aller bien sûr c'est vrai que allez il y a cette situation de Sotoboua que cette situation qui prévaut à Sotoboua qui fait beaucoup couler d'encre et de salive et on suit un tout petit peu alors l'actualité ce qui se passe bien évidemment beaucoup de journaux sont revenus sur le sujet aujourd'hui Jean Le Grand Polérini vous êtes revenu sur le sujet et vous écrivez panique à Sotoboua qui est derrière ces crimes odieux et c'est une question qui mérite d'être posée.
Oui Pascal c'est une question qui taraude l'esprit de tout observateur avisé parce que depuis plus d'un mois cette situation a cours au niveau du Sotoboua où plusieurs corps ont été retrouvés sans vie. Avant samedi dernier il y avait 5 corps qui ont été retrouvés à plusieurs intervalles et ce qui a poussé la jeunesse de Sotoboua à organiser un mouvement d'humeur le samedi pour demander que justice soit faite parce que vous savez depuis que ces crimes ont commencé il n'y a pas eu de réaction de la part des autorités. Bien évidemment, il y avait constamment de la stupeur dans la ville. Les gens se posaient beaucoup de questions. Mais il a été reproché aux autorités locales de n'avoir pas réagi à temps. Et quand même qu'on ait des communiqués pour pouvoir sensibiliser. C'est-à-dire, du moment où il y a eu plus de 1, 2, 3 corps retrouvés avec le même mode opératoire, le bon sens voudrait quand même que on puisse quand même alerter la population, ce qui n'a pas été fait. Et la population est sortie pour réclamer. Bon, malheureusement, il y a eu du grabuge. Et ce qui n'a pas arrangé les choses. Mais fort heureusement, déjà dans la soirée dimanche, ceux dont les engins ont été repris, les engins ont été remis aux propriétaires. Et bizarrement, on a encore retrouvé un corps le lendemain. C'est-à-dire que ceux qui sont derrière ces pratiques-là ne sont pas prêts de s'arrêter. Et tout le monde aujourd'hui veut savoir qui sont derrière ces pratiques. Parce que c'est un peu anormal. On a vécu ces cas en 2012. On les a vécus en 2020 dans des endroits isolés. Mais à ce jour, on n'a pas pu mettre le doigt sur X, sur Y pour dire voici telle personne qui pose ces actes-là. Et il faut préciser que ces événements interviennent à quelques mois des échéances que nous avons en avril. Et ma foi, c'est des situations qui viennent saper la cohésion et le moral des populations. Et les autorités doivent aujourd'hui situer les populations sur qui sont derrière ces choses-là. La société civile a sorti un communiqué la dernière fois exigeant véritablement qui est de la lumière. Parce que quand les gens sont tués au nom du pays, il y a une réaction également. Il faut que dans ce cas de situation, le gouvernement, les autorités puissent quand même réagir. Et moi, ce que je voudrais ajouter, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait toujours du grabuge avant que les gens ne se décident à communiquer? Du moment où les crimes ont commencé, 1, 2, 3, 4, déjà à partir de 3, et qu'on voit que c'est le même mode opératoire, mais il faut quand même qu'il y ait une sortie des autorités. C'est l'importance ici des cellules de communication et principalement communication de crise. Parce qu'on ne peut pas attendre que cela dégénère d'abord. Ça fait trop. Déjà une vie, deux vies de perdu, c'est trop. Même une vie, c'est déjà trop. Et quand le phénomène est consécutif, les autorités devaient réagir. Mais bon, malheureusement, le grabuge est arrivé le samedi avant que le préfet ne puisse s'exprimer et appeler la population au calme. Et il a assuré que les enquêtes se poursuivent et que les auteurs seront retrouvés. Nous sommes en train véritablement d'attendre que la lumière soit faite parce que c'en est assez qu'on ait ces crimes-là et que personne ne soit
indexé, qu'on sache que c'est XY qui a fait le, qui a commis le forfait.
Magoula, rebonjour.
Bonjour.
Voilà, c'est vrai que sur cette affaire, le préfet nous a rassuré qu'il y a une enquête qui est en cours pour élucider cette affaire, pour savoir exactement le fond de ce sujet, l'origine même d'ailleurs de ces crimes odieux. Alors, on doit quand même aller très vite pour que du moins la population arrive à savoir ce qui se passe concrètement.
Bien entendu, vous savez que c'est très difficile pour une population de se retrouver un bon matin avec des corps qui jonchent les rues, parce que on ne parle pas quand même d'un corps retrouvé, mais 2, 3, 4, 5, c'est déjà beaucoup, hein, pour déjà inciter les autorités à prendre les mesures qu'il faut, afin d'abord de rassurer les populations, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, les préfets, on les désigne souvent par le vocable représentant du pouvoir central. Et à ce titre, ils ont les leviers qu'il faut, hein, pour pouvoir assurer et la sécurité et la protection civile à l'intérieur du pays. Maintenant, selon la légende, ce n'est pas la première fois que ça se produit. C'est un fait fréquent et c'est en cela que ça interpelle encore le plus. Hein, parce que non seulement nous sommes à quelques jours de cette période assez sensible que nous connaissons dans la vie politique du pays, mais également, on va dire que le pays connaît quelques velléités également, un peu vers le nord, je ne voudrais pas les désigner véritablement. Et donc, quand tout ceci se produit, ça crée de la confusion d'abord dans la masse. Et c'est en cela que j'ai dit, mais il ne faudrait pas surtout qu'on veuille régler un problème par la violence. Le plus important ici, ce n'est pas d'apeurer les populations, ce n'est pas de les inquiéter, au contraire, c'est de pouvoir trouver le juste milieu pour les rassurer d'abord et surtout prendre les mesures qu'il faut pour chercher à connaître l'origine de ces crimes-là qui se produisent. Parce que c'est vrai, moi je ne suis pas un spécialiste de la criminologie, mais j'estime qu'on ne pouvait pas assister à une série, n'est-ce pas, de faits macabres comme ça, jusqu'à 4-5 corps le même jour, et au lendemain, on retrouve encore un sixième corps, sans que forcément il n'y ait pas de faits et gestes qui concourent véritablement à une hypothèse allant dans ce sens. C'est en cela que j'ai dit, oui, d'accord, première partie ou premier acteur à être interpellé, c'est l'autorité, mais en même temps, il faut que la population collabore, parce que c'est très souvent des gens, ceux qui commettent souvent ces actes-là, souvent ne sont pas des gens qui font partie de cette communauté. Peut-être c'est des gens qui viennent d'ailleurs et qui prennent le temps d'abord de s'installer, le temps de connaître le quotidien des gens, comment est-ce que les gens procèdent pour animer leur vie quotidienne, pour pouvoir passer à leur fait macabre. Et donc c'est en cela qu'il est important d'en appeler également à une forte collaboration de la population là-bas pour aider les autorités locales, pourquoi pas jusqu'au haut sommet, à régler le problème, parce que c'est vraiment inquiétant.
C'est vraiment inquiétant. Ambroise, alors quand on suit cette situation de près, est-ce qu'on peut comprendre aussi le silence alors du ministère de la Sécurité dans cette affaire?
Bon, le silence du ministère peut s'expliquer par le fait que le préfet, qui est le représentant du pouvoir central, devait faire des déclarations. Et vous savez, le pays dans lequel nous sommes, il ne peut même pas faire des déclarations sans avoir l'autorisation de la hiérarchie. Et il se fait que la hiérarchie immédiate, c'est le ministère de l'administration territoriale et par ricochet, le ministère de la Sécurité. Vous savez, dans cette histoire, ça ressemble à cette histoire de l'assassinat de filles d'Agon Ivé, je crois de 2013 ou de 2012, et qui ressemble fort à un cas de crime rituel, tel que certains l'ont déjà dit. En écoutant ou en lisant le préfet, qui dit qu'il n'était même pas là, dans la ville, il était à Lomé quand il avait été appelé, et que les crimes ne se sont pas déroulés au même endroit et le même jour. Et souvent, c'est des femmes qui sont allées chercher des fagots de bois, qui sont allés puiser de l'eau au Marigot, qui sont souvent victimes de ça.
Mais là, en bas, c'est depuis janvier ou même décembre que des choses comme ça ont commencé dans la localité. Ça devait interpeller quand même les autorités.
Oui, à juste titre. Et chercher les causes et les auteurs. quand Magloire disait que ça peut être des gens forcément qui ne sont pas de la localité, ça peut être vrai dans ce sens que les commanditaires sont souvent à l'extérieur. On ne peut pas vouloir faire du mal à la communauté dans laquelle on vit. Ça, c'est la première vue. Quand Magloire a dit ça, c'est une réalité. Maintenant, la seconde chose, c'est qu'en réalité, il doit y avoir des complices à l'interne qui puissent opérer, connaissant peut-être les victimes, opérer maintenant en échange d'argent ou de quelque chose pour pouvoir servir les commanditaires qui, forcément, ou ne sont pas du milieu. Et donc, moi, ça m'inquiète d'abord sur un plan de communication et ensuite sur un plan de maintien d'ordre. Parce que communication, parce que des situations comme ça qui te passent depuis janvier, le préfet n'a jamais communiqué. Je ne sais pas s'il a remonté, il peut bourrer, c'est sûr qu'il a remonté l'information à sa hiérarchie. La hiérarchie n'a rien communiqué. Alors qu'il y avait déjà des braises qui étaient dans cette ville depuis des temps immémoriaux concernant des questions ethniques. Et donc, sans pouvoir lorgner ou toucher cet aspect de la chose, cet angle-là, je crois fondamentalement que nos autorités doivent communiquer et quitter cette histoire de ne rien dire. Parce qu'ils ont, cette malheureuse, c'est-à-dire maladresse-là, de ne pas communiquer. Vous ne communiquez pas, d'accord? Les populations vont réagir. C'est des hommes, ils ont le sang et l'eau qui bouillonne en eux. Et en plus, quand on parle de sécurité, c'est la police et la gendarmerie qui sont censés venir protéger les populations ou maintenir dehors s'il y a des troubles. Mais pas les militaires, je suis désolé. Le militaire, il est là pour protéger le territoire, déclarer la guerre ou faire face à la guerre. Il n'y a personne qui fait la guerre à ce tout bois. Et les militaires, ils arrivent souvent où il y a un corps spécialisé, il arrive pour rétablir l'ordre. Il faut faire la nuance entre les deux mots, rétablir l'ordre et maintenir l'ordre. Les gens n'arrivent pas à faire la nuance. Rétablir l'ordre, ça veut dire que vous allez voir des gens, des clavicules cassées, des orteils et les genoux cassés. Parce que là, on sent qu'il y a un sérieux problème. Mais pas forcément les militaires qui le font, c'est les gendarmes ou les corps spécialisés. Maintenant, le maintien de l'ordre, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas des dégâts matériels et humains. Et ça, les gens sont formés pour ça. Et donc, la dernière chose, c'est que une population qui est désabusée, qui est martyrisée par ce genre d'actes de fait. Mais vous voulez qu'elles réagissent comment? Les cas pareils sont produits à Mango. J'ai toujours l'habitude de dire, mais vous avez la population de Mango, les Chokossi, et la chance de ce régime, c'est qu'ils ne sont pas à Lomé. Hein? Parce que c'est des gens, vous convoquez un seul, vous allez retrouver tout le village au commissariat. Et ça s'est produit. Malheureusement, il y avait eu mon homme. Ça, c'est le CBU, c'est le commissaire, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais il faut. C'est des gens, c'est des choses, ces genres de situations, même si les gens, vous pensez que les gens sont à l'extérieur, aujourd'hui avec l'Internet, ça parle vite l'information. La preuve, on a arrêté celui qui a filmé. Pourquoi ils arrêtent celui qui a filmé? Donc celui-là, s'il fait partie d'un groupe de personnes qui est alerte sur des faits dans un milieu comme France 24 le fait, on va l'arrêter? Non. Il faut arrêter ça. Ça, c'est dans l'ancien système, c'est dans l'ancien temps. Nos amis, nos frères qui sont dirigeants dans ce, surtout les préfets, la plupart sont des militaires, ils ont un comportement, je ne sais pas. C'est-à-dire, vous avez des enfants aussi, eux aussi ont des enfants, mais ils n'ont qu'à juste se mettre à la place des autres pour voir, ils seront contents qu'on prenne une soeur, qu'on prenne une cousine, une tante, on enlève les parties intimes et on laisse le corps comme ça. C'est pas évident.
Alors, Jean Le Grand Polérini, c'est vrai qu'au temps du ministre Yac, hein, quand le ministre Yac était au ministère de la Sécurité, au moins, il y a un communiqué qui sortait, s'il y a de telles situations, il y a un communiqué qui sortait pour situer même la population, pardon, sur les faits, et avant quand même d'appeler la population à la vigilance et tout. Mais au temps de Kalis Mandouba, c'est qu'il n'y a rien de cela.
Oui, on n'a rien observé. C'est pourquoi je dis que c'est une situation, ma foi, incompréhensible. Moi, je me dis, est-ce que peut-être l'incident n'a pas été banalisé au début? Peut-être qu'on se dit, bon, c'est quelque chose qui est arrivé un coup isolé, je dis n'importe quoi. Et peut-être qu'on n'a pas pris la chose. Ce qui a fait que... Et c'est grave, en fait. C'est grave, en fait, parce que ce n'est pas un corps, ce n'est pas deux corps. Quand on va jusqu'à 3-4, rapidement, il faut commencer par alerter la population. Parce que c'est des hommes qui meurent, ce n'est pas des moutons, ce n'est pas des bêtes. C'est la vie humaine. On n'a pas compris en fait pourquoi il y a eu ce gap, il y a eu ce silence-là. Nous tous, nous sommes témoins, nous observons, nous avons quand même remarqué qu'il y a eu défaillance. Et c'est cette population, ce qui veut dire que si la population n'était pas sortie samedi pour réclamer, il n'y aurait rien jusqu'à ce jour. C'est là où je dis qu'il y a un problème et qu'il faut que nos autorités commencent par prendre la mesure de la chose, commencent par anticiper. C'est vrai qu'à Lomé, c'est la grande ville, quand il y a quelque chose directement, nous parlons de communiquer, ils font quand même un peu le fort. Mais à l'intérieur, ma foi, quand vous allez à l'intérieur, c'est un autre monde. Hein. Quand vous êtes à Lomé, c'est Lomé, l'intérieur, c'est l'intérieur. Et souvent, les autorités locales sont des petits rois là-bas, il n'y a personne qui peut lever le doigt. Et quand l'autorité ne bouge pas le petit doigt, c'est que c'est le silence, il n'y a rien. Il a fallu quand même qu'il y ait ce truc-là avant que le préfet aujourd'hui ne parle. Et bon, comme les enquêtes ont commencé, je crois peut-être qu'il faut avoir des éléments probants avant que les autorités sécuritaires ne puissent s'exprimer. Les enquêtes se poursuivent. Actuellement, je crois qu'ils n'ont pas d'éléments pour quand même situer l'opinion, pour dire voici, mais juste ce que nous savons, c'est qu'il y a eu 6 morts déjà, et tout porte à quoi que c'est des crimes rituels, parce que vous avez des gens étranglés, le sang qui est vidé.
Alors, nous allons revenir sur le sujet, nous suivons l'ordre de près alors ce sujet.
Est-ce que c'est Gapola qui a interrogé le préfet?
Effectivement, nous avons...
Parce que je l'ai lu.
Oui, nous avons contacté même le préfet, nous aussi, au niveau de personnellement, j'ai contacté le préfet, et qui m'a expliqué aussi un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il me disait qu'il n'a pas eu alors l'autorisation de son hiérarchie pour se prononcer officiellement sur la situation dans le sud de notre antenne. Oui, Magula.
Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que il y a une situation qui globalement m'inquiète parce que une fois, deux fois, on peut comprendre. Mais j'ai l'impression quand même que chez nous au Togo, on est en train d'institutionnaliser, on va dire, le silence. C'est-à-dire
la communication
par le silence. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays. On avait attendu que le gouvernement, par exemple, sorte pour dire quelque chose à la population, mais ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, on parle des crimes odieux.
Mais là, Maroula, est-ce que vous évoquez vraiment sérieux? C'est la faute à qui? Est-ce que quand on prend même d'ailleurs ces institutions, est-ce que c'est la cellule de communication qui ne fonctionne pas bien? Qu'est-ce qui se passe?
Mais justement, on avait même parlé un peu de cette problématique la dernière fois. Comment on peut comprendre que de la présidence jusqu'au peut-être dernier service public du pays, on a quand même des communicateurs, des communicants. Et chaque service est doté quand même de ce qu'il faut pour faire valablement son job. On a mis à la disposition de chaque service de l'État des hommes et des femmes qui ont été à l'école pour ça. Mais si à la fin, on résume leur présence à du néant, c'est qu'il y a un problème. Et au même moment, on se pose la question de savoir, est-ce que on ne donne pas les moyens aux communicants de faire valablement leur job, ou alors c'est les communicants qui manquent un peu de créativité, ou alors ne connaissent pas ce pourquoi l'État les entretient. Le problème, il est réel. Mais je ne crois pas, parce que prenons par exemple le gouvernement en tant qu'entité. À ce que je sache, jusqu'à la dernière seconde, le gouvernement a deux porte-paroles ou deux porte-paroles-là. Mais la parole est toujours rare. C'est en cela que moi, j'ai dit, le problème, il est ailleurs. Peut-être les gens, on nous dit tout à l'heure que le préfet n'a pas reçu l'ordre de son supérieur hiérarchique. Ça voudra dire que c'est institutionnalisé. Si le patron ne te donne pas la parole, tu ne parles pas. Alors qu'on avait besoin de prendre langue avec les gens, les rassurer d'abord, avant de vouloir prendre des initiatives pour calmer la situation.
Pascal, tu as demandé rapidement pourquoi cet état de choses. Moi, je crois que les communicants font le travail, parce que c'est la tête quand même qui doit donner le okay. Vous allez dans plusieurs services, les communicants proposent, mais le patron ne dit rien. Alors là, ils ne peuvent rien faire. Quand tu parles de problèmes de communication, la dernière fois, quand la société déconne, il a fallu que nous tempétions aussi jeudi pour que vendredi, le communiqué sorte.
C'est l'émission là qui...
C'est l'émission jeudi. Tu imagines ce qu'on a dû dire ici. Avant qu'on ne sorte, on nous dit que non, il y a eu problème sur la ligne depuis quand...
Entretien des
pourquoi
des
est-ce qu'on ne pouvait pas nous informer depuis que le problème a commencé pour nous dire que vous aurez des perturbations à cause de tel. Il a fallu qu'on souffre, que tout le monde crie. Et vers la fin, on nous dit que non, c'est parce qu'il y a perturbation. Alors la communication, elle est nulle.
D'accord. Alors, nous allons quitter le sujet hein, rapidement. Ambroise, je vais m'intéresser à ce sujet-là hein, dont vous avez parlé dans votre journal aujourd'hui. Et vous l'avez mis même d'ailleurs à la une hein, du journal. Vous parlez de succession rocambolesque du feu Nassini, Gado et Chaiso. Et vous dites que la veuve tente de s'accaparer des biens et casse certains héritiers et met Maître Bamazé et la police à contribution.
Oui, merci pour l'intérêt que vous portez à ce sujet. C'est un sujet un peu complexe et c'est lié à la succession. Et tout sujet qui est lié à la succession et qui a une veuve, vous imaginez tout ce qui peut l'entourer. Nous, on ne rentre pas dans ce qui se passe dans la famille Nassini. Gado, on l'appelle. C'est l'homme d'affaires qui a des hôtels à Accra, à Lomé, tout ça. Et c'est un conflit, hein. C'est un conflit, il faut être direct, entre le fils aîné et sa maman. Autour des biens, autour de l'héritage. Et nous, les recoupements que nous avons pu faire, nous savons que il y a des choses qu'on peut reprocher au fils aîné dont on parle. Mais dans une situation, c'est quand même que quand une part revient à quelqu'un, il faut lui remettre ce qui lui appartient, quoi. Et donc, des agissements ont démontré qu'il n'y a pas la justice, qu'il y a une violation des droits. On prend le monsieur, quel que soit ce qu'on lui reproche, on l'enferme trois fois au commissariat, soit à Dijolé ailleurs, parce qu'il tente d'aller réclamer sa part, parce que le papa lui aurait dit que sa part c'est 25% dans les parts. Il y a les deux hôtels Concorde de Caralomé, les deux CPP Caralomé, il y a Galerie Concorde, il y a plein de sociétés qui gèrent. Eux, ils lui reprochent des choses. Mais le comportement de la dame, sa maman biologique, ils sont quatre. C'est l'aîné. Et depuis que le monsieur est tombé malade, il semble que l'aîné était aux États-Unis, le papa l'a appelé de venir à son chevet pour le voir. Mais non, nous, on se dit, mais le monsieur n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a rien fait. On me dit, on a appris qu'il menace des gens, mais vous l'embrigadez trois fois, quatre fois. Même certains sont rentrés dans ce dossier, je ne vais pas citer des noms. Certains sont décédés. Le feu, Abdou Assouma, c'est des gens qui sont rentrés dedans. Et on a failli même amener chez un psychiatre pour l'injecter des choses. Mais c'est lui, ce feu-là, qui a intervenu pour que ça ne soit pas chose faite. Et donc, aujourd'hui, on se dit, mais ça, entre familles, il faut vous entendre. Mais il y a un notaire qui est rentré dans le jeu. C'est-à-dire qu'il a amené les enfants signer une procuration pour la gestion des biens. La chambre de notaire est intervenue. Et dans tout ce méli-mélo, vous faites signer une procuration aux enfants. Remettez la copie aux ayants droit. Ça aussi, ils ne l'ont pas fait. Même sommation d'un huissier, ça n'a pas été fait. Et donc, le monsieur, chaque fois qu'il veut aller là-bas, les policiers le prennent. C'est-à-dire qu'on fait tout pour l'empêcher. Quand vous allez maintenant dans les concours, tout ça là, il y a des policiers partout. Maintenant, nous, ce qu'on se pose la question, où se trouve la justice? Mais partagez les biens pour lui remettre sa part. C'est son droit, quoi, le plus légitime, quoi. Donc, c'est un dossier qui a été transporté devant le tribunal de commerce et qui est pendant derrière. Et donc, nous, on l'a révélé. Et c'est au cours de notre recoupement. On tombe sur la dame, il nous a raccroché au téléphone, il a même dit des choses que je veux, elle a dit des choses que je ne veux pas dire ici, mais ce qui est le plus énervant dans notre travail, quand vous faites ce travail de journaliste, vous devez avoir toute la tête pour faire ce travail. C'est la fille et un de ses fils qui m'ont insulté proprement, imbécile, chien. J'ai les enregistrements ici et je les ai mis dans le journal. Vous pensez que c'est normal? J'appelle poliment, je vous salue, je ne les connais même pas et il me renvoie ça. Le moment où je donne mon numéro, il m'appelle, chacun son numéro avec des messages, ils envoient. Et c'est l'avocat qui appelle par après. Calmement, il m'a dit, il me connaît raisonnable, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il va m'expliquer des choses. Lui aussi, il a dit sa part, que l'aîné dont on parle, il ne gère pas bien, il vient prendre l'argent, il va menacer des gens, il prend l'argent ici, il prend l'argent ici. Ça, c'est libre à eux. C'est la contradiction possible qu'on peut mettre dans notre article. Et il a dit des choses, que lui, c'est lui-même qui a signé la procuration. On a tenté le notaire plusieurs fois, mais c'est vers l'après-midi qu'on a eu. Et il a dit effectivement qu'ils ont signé une procuration, que lui fait son travail, ils ont une déontologie, ils ont une éthique, et que lui ne fait que respecter la loi. Et bien, je lui ai posé la question, est-ce qu'ils ont remis la procuration qu'ils ont signée, ils ont remis une copie? Il ne m'a pas répondu. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine dichotomie. Mais je tiens à dire qu'on ne menace pas un journaliste. J'ai pris toutes les dispositions, parce que quand vous êtes face à un dossier sensible de cette encablure,
justement, c'est sensible, ce dossier.
Vous prenez... Vous portez des gants. J'ai pris tout le temps de consulter tout le monde. Et tous les acteurs sont intervenus dedans. ils quittent à eux de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est un dossier sur lequel sûrement nous reviendrons.
Et ça nous fera
parce que c'est une question d'héritage.
D'accord.
Et une question d'héritage, ça tombe toujours dans le domaine public. Et c'est notre devoir, notre droit de faire en sorte qu'il y ait justice.
D'accord. Nous reviendrons sûrement sur le sujet avec un débat ici au Club de la Presse. Alors, l'honorable Jean Kissi, rebonjour.
Oui, rebonjour.
Oui, vous nous avez suivi maintenant faire le débat, bien sûr, concernant surtout cette affaire de Sotoboua. Et quelle est votre appréciation de cette situation?
Moi, je veux dire peut-être trois petites choses, rapidement. Vous avez posé une question pour savoir pourquoi on ne se prononce pas à temps. Alors, je voudrais à ce niveau que, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire un ministre? Un ministre, c'est un serviteur du peuple qui dispose de la plénitude de son portefeuille. Ça veut dire que lorsque ce genre d'événements se passent, ce n'est même pas les communicateurs. Si vous dites on communique mal, on peut parler des communicateurs. Mais c'est le ministre qui doit donner l'ordre de communiquer parce que c'est un sujet sensible. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le fait même, c'est-à-dire que c'est tellement grave qu'on n'a pas besoin de citer 3-4 cas. Si c'était la première fois, ok. Mais le fait s'était passé en 2012 et a ému la population. Et jusqu'à présent, le pays cherche à creuser, voir comment ce genre de choses peut se passer. Donc, à partir du moment où c'est un fait, c'est une répétition, même le seul corps suffit pour être alarmé et que le dossier soit pris au sérieux. Si ça n'a jamais passé, ok, on peut dire il y a 2, il y a 3. Mais à partir du moment où on sait un seul et qu'il y a un fait qui s'est passé il y a 12 ans, suffit pour alerter que ça devienne une affaire nationale totalement. La troisième chose, c'est que, vous savez, dans la crise, comment on appelle les djihadistes, dans la savane, voilà, on interpelle à plusieurs reprises la population de faire corps avec l'armée pour lutter contre. Donc, c'est la manière d'éduquer la population à ce genre de faits. Si, sur des faits assez graves, des faits criminels, des faits de mort, du sud jusque dans le nord du pays, on habitue la population à collaborer avec les forces de l'ordre, chaque fois qu'ils voient quelque chose, allez le dire, quand ça rentre dans leurs habitudes. Donc, quand ça va se passer dans la savane avec les faits djihadistes, c'est rapidement que c'est pas un réflexe que les populations vont réagir. Donc, quand vous leur demandez dans la savane, faites corps avec les forces de l'ordre et signalez la plus petite chose que vous voyez et que vous ne leur demandez pas dans la région de la Kara ou dans la région centrale, comment voulez-vous que ça rentre dans le subconscient des populations, ce genre de réaction?
Honorable, je vous ai invité pour que nous parlions surtout alors de la préparation des élections législatives et régionales hein, qui nous attendent déjà le 13 avril prochain. Alors, c'est vrai que vous êtes homme politique. J'ai envie même d'ailleurs de vous poser la question, savoir d'abord comment se porte aujourd'hui votre parti CAR.
Ça ne va pas aussi bien que ça. On est en ce moment-là en procès devant le tribunal entre le Bureau national de la transition et les dissidents. Mais comme le dossier est devant la justice, on est en train de suivre. C'est dommage, mais c'est à cette étape qu'on est. On est là-bas parce qu'il y a eu un congrès dissident qui a été organisé derrière nous. Pire, c'est que ceux qui ont organisé le congrès dissident avec l'appui de qui nous soupçonnons font des voix de fait sur le personnel. C'est-à-dire que ceux que Maître Aboubo avait recrutés qui travaillent avec nous et dont les conditions ne sont même pas totalement satisfaites. Nous avons même des dettes envers eux. Leur question de sécurité sociale, on est en discussion avec eux pour le gérer. Ils les ont renvoyés d'un coup, sans autre forme de procès. Et c'est ça même qui nous a obligés à aller en procès, parce que on ne peut pas laisser cette situation. Si tout le fait ne va pas en procès, et qu'on démontre que ces gens-là n'ont aucune légitimité, que c'est un doublon de congrès qu'ils ont organisé en 4 semaines de période, et ils ont fait ça. Si on ne dénonce pas l'annulation de ce congrès et du bureau qu'ils ont mis en place, on ne peut pas réclamer les droits de ceux qu'ils ont renvoyés indûment. Donc c'est tout ça qui a introduit le procès. C'est malheureux, on est dedans.
Oui, c'est malheureux, puisque moi je voudrais savoir comment vous êtes arrivé là, des amis d'hier qui se retrouvent aujourd'hui à la justice et sont pratiquement des adversaires d'aujourd'hui. Dans le même parti.
C'est difficile à dire, hein. On ne sait même pas, hein. Alors, vous savez, c'est difficile. Si on veut approfondir ce sujet aujourd'hui, on ne va pas pouvoir parler de ce qui est en face des Togolais, notamment les élections. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose qui couvre avant le décès de Maître Aboibo, hein. Déjà, avant le décès de Maître Aboibo, il y avait des velléités. Il y avait des gens qui allaient chez Maître Aboibo lui dire que, ah bon, si... vous laissez Jean Kissi là-bas, si vous lui donnez le parti, voilà, il faut que ce soit des gens de telle préfecture et des gens de Yoto l'ont dénoncé. Hein. Il y a le groupe majoritaire de Yoto. Quand le jour où vous les recevez, vous direz cette affaire de Yoto ou rien, qu'ils ne l'acceptent pas. Mais depuis les derniers moments de Maître Aboibo, on lui faisait ce coup-là. On faisait un groupe, on allait le voir pour lui dire non, il faut que il mette quelqu'un de Yoto là-bas, et le coup se préparait depuis. Bon, mais il a géré Clopin à certains de ses intimes. Il est même arrivé, lorsqu'on a exclu Aoudi, des gens ont fait des pieds et des mains pour que en plus m'exclure, parce qu'il y a eu quelques divergences d'opinion sur la façon de gérer l'élection de 2020. Et c'est avec amertume. Je crois que ça a fait partie même des amertumes de ces derniers jours, qu'il a dit, mais si j'ai préparé quelqu'un pour me remplacer, c'est ça, on va me dire de l'exclure du parti, pour quel fait? Donc, il y a eu en fait des choses assez, même déjà vers la fin de Maître Aboibo, hein. Mais c'est dommage. Bon, nous, on a vu tout ça. On n'a pas réagi, mais c'est les effets. Que voulez-vous, hein? C'est ceux qui mènent cette bataille-là, c'est des gens qui nous ont rejoints en cours. Ce n'est pas des fondateurs. Certains parmi eux nous ont rejoints en 2006. Certains nous ont même rejoints en 2013. Mais on ne savait pas que c'était le ver qui rentrait dans le fruit.
Et voilà. Donc on disait même d'ailleurs que Maître Aboibo est parti avec son parti.
On ne sait pas. De toutes les façons, moi, vous savez, non seulement je suis membre du parti, je suis fondateur, mais les gens savent ma relation dans la maison de Maître Aboibo. Donc, je suis obligé de tenter de sauver son patrimoine. D'accord. Si demain, malgré tout, la justice nous retire le parti pour le donner à ces gens-là, tout le monde comprendrait et la famille comprendrait que c'est la justice qui a fait. Mais aussi longtemps que je ne peux pas abandonner le parti. C'est comme si je ne luttais pas pour le patrimoine de celui dont j'ai été le fils spirituel, dont je suis le fils spirituel pendant longtemps.
D'accord. Honorable, nous allons parler alors des élections dans quelques instants, mais bien avant, nous allons observer une pause.
D'accord.
93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi, quatrième numéro, même d'ailleurs, et nous discutons avec l'honorable Jean Kissi Ducard. Honorable, et nous sommes en train de discuter d'un certain nombre de choses, surtout de l'actualité, hein, de notre pays. Nous savons, je le disais avant la pause, que il y a des élections qui nous attendent, des élections législatives et régionales nous attendent le 13 avril prochain. Alors, pour vous, comment vous appréciez les préparatifs alors de ces élections?
C'est malheureux, hein, ce qui se passe. C'est très malheureux. La façon dont la date de ces élections a été annoncée même a été un grand stress pour l'opposition, mais aussi pour les populations. On savait quand le mandat des députés devait finir. Alors, on savait tout ça, on n'avait rien fait. Mais la population cherchait à savoir pourquoi ils n'ont pas pu organiser les élections. C'est l'explication qu'on demandait. Et paf, arrivé un jour, on leur dit que la dernière semaine de mars, il y aura les élections. Alors qu'il y avait des contestations sur le fichier, etc. Et puis, patatras, on dit que c'est le 13 avril. Donc tout ça, on sait, on ne sait pas. On vous colle ça au nez, tout ça. Ça a été un grand stress pour la population. Vous savez, on a l'impression que tout ça, c'est un conflit entre le pouvoir et la CENI, ce qui se fait. Parce que une compétition, les élections, c'est comme une compétition sportive, là. Dans les compétitions sportives, tout ce que vous appelez à compétir, vous leur dites à date échue l'échéance qui est prévue, que à telle date vous aurez la compétition. Préparez-vous. Vous devez mettre ci. Vous devez disposer de ci et vous devez disposer de ça. Et tout le monde, tous les athlètes ou bien tous les sportifs doivent être au même niveau d'information. Quelqu'un ne peut pas avoir l'information et se préparer en catimini, être prêt et c'est à la dernière minute que l'autre doit avoir les informations. Tout le monde doit avoir les informations. À la dernière minute, vous donnez les instructions qu'il faut, et c'est ça que nous appelions à l'école, attention, prêt, partez. Et quand on dit, quand vous êtes informé comme ça, on dit, attention, prêt, partez, vous êtes prêts à partir tous ensemble. Nous étions là lorsque les choses se préparaient, lorsque UNIR a demandé aux gens de préparer leur candidature, d'envoyer les dossiers, on leur a situé sur les conditions, etc. Nous, on ne nous disait rien. Et dès qu'ils ont fini, patatrac, ils nous disent, ah, il y aura les élections le 13 avril.
Au CPC, il y a les discussions qui se faisaient là.
Et est-ce que vous croyez qu'une date a été fixée au CPC? Non. Pour ce que j'ai entendu, en tout cas pour tout ce que vous avez entendu, aucune date n'a été fixée au CPC. Sinon, le communiqué du CPC l'aurait dit. En principe, dans le processus électoral, un processus électoral correct, il ne revient même pas au pouvoir de se lever un matin lorsqu'on se pose des questions et d'annoncer les choses. Non, il revient à la CENI d'annoncer un chronogramme. Ce n'est pas le pouvoir qui organise les élections. Contrairement à ce que mon frère Adrien Beliki a dit la dernière fois sur Canal FM et sur Victoire FM hier, il ne revient pas à l'État ou au gouvernement d'organiser les élections. Les textes que nous avons dit que c'est la CENI qui organise les élections avec le concours du gouvernement. Il revient à la CENI de dresser le chronogramme. Et dans le chronogramme de la CENI, le pouvoir va voir ce qui sont ses prérogatives à faire. Quand la CENI dresse le chronogramme, on nous informe, nous tous, qui sommes des politiques ou qui sommes prêts à aller aux élections, on doit être au même niveau d'information. Je ne sais pas, Pascal, si vous vous souvenez, il y a un certain nombre d'élections avant, les CENI qui étaient là, ils nous appelaient à l'hôtel qui est devenu Le Béné, là. L'hôtel Le Béné, c'était devenu hôtel Ibis, voilà. C'est autant d'Ibis qu'on nous appelait. Et on nous informait. Après, on appelait les journalistes aussi et on les informait. Mais on a l'impression que cette CENI est totalement incompétente. Elle ne dit rien à personne. Vous ne nous informez pas sur les règles d'une élection et puis vous nous dites, allez aux élections. Comment est-ce qu'on organise une élection comme ça? C'est déséquilibré. Donc, c'est la CENI qui devait fixer le chronogramme. Et le gouvernement voit dans le chronogramme, qu'est-ce que moi je dois faire? Ah, c'est moi qui dois convoquer le corps électoral. Ok, à partir du moment où la date est échue, pour la CENI, je convoque le corps électoral. Voilà, qui doit faire la prochaine activité? Mais tel que ça se fait là, c'est comme si c'est le gouvernement qui donne le là, et moi je suis malheureux que des gens qui se disent de l'opposition aillent justifier sur les radios que c'est le gouvernement qui a les prérogatives d'organiser les élections. Les textes ne le disent pas comme ça. Si vous lisez l'article 8 du code électoral, elle dit bien que la CENI est chargée de l'organisation et de la supervision des opérations électorales, des opérations référendaires et électorales. Je ne sais pas où les notes trouvent à aller défendre le gouvernement et à dire que c'est le gouvernement qui a les prérogatives d'organiser les élections.
Voilà. Et entre-temps, c'est la répartition des sièges déjà ces sièges même qui ont été portés à 113 pour la prochaine législature. Et c'est cette répartition qui a constitué alors de polémiques au sein de la classe politique. Pour vous, est-ce que ces répartitions, est-ce que c'est équitable?
Non. C'est une incongruité. Hein. C'est un fait grave ce qui se passe. C'est un fait grave et paradoxal, parce que ce que des gens n'ont pas lu, sur d'autres registres, on a bien fait. Pourquoi on ne peut pas copier pour mieux faire? Vous savez, le découpage suit un certain nombre de standards. On trouve un quotient, et à partir de ce quotient-là, tout le monde n'est pas représenté de la même façon, hein. Jamais, je comprends. Mais on trouve un quotient. Quand vous trouvez le quotient, pour le cas du Togo par exemple, vous pouvez dire de toutes les façons, chaque préfecture, ancienne ou nouvelle, doit avoir 2 députés. Mais à partir de ce moment-là, vous devez définir comment est-ce que ça augmente pour ceux qui en ont plus. Donc, vous pouvez fixer un chiffre en disant, donc de ce zéro-là jusqu'à 100 000, ils ont 2 députés. Maintenant, vous commencez à partir de 100 000 et c'est là où vous commencez. Vous pouvez fixer à raison de 100 000. Vous pouvez dire, tous ceux qui ont de 100 000 à 200 000 ont un troisième député. Tous ceux qui ont de 300 000 à 400 000 ont un quatrième député. Et puis après, il y a un plafond quand même. Pour les grandes préfectures, il arrive un moment où il y a un plafond. Où vous pouvez dire, ceux qui ont de 100 000 à 225 000, donc 125 000 de plus, il y a un député de plus. Donc de 225 000 à 350 000, 125 000, c'est comme ça les standards internationaux. Vous posez ces standards-là, et c'est après ces standards que vous mettez les spécificités qui sont rares. Pour ce que je connais, pour ce que j'ai étudié, pour le temps que j'ai fait en Europe, quelles peuvent être les spécificités? Les spécificités peuvent être une particularité ethnique,
Quand vous prenez la France, par exemple, vous allez à la Corse. Il y a une partie de la Corse qui est détachée de la France. Mais il y a une partie qui est rattachée où il y a encore des Corses. Le quotient en France est autour de 125 000 à 160 000 pour avoir un député. Mais lorsque vous allez dans cette région de la Corse qui est collée à la France, s'ils sont par exemple 65 000, alors que le quotient chez eux est à 140 000, ça veut dire que si vous ne leur donnez pas dans la région de ces 65 000, vous risquez d'aller à une élection où les autres populations qui ont 75 000 ajoutées à leurs 65 000, ça fait 140 000, vont avoir un député alors qu'on sait que c'est une région corse. Si vous ne faites pas cette spécificité-là, ça peut amener des problèmes. Ils peuvent revendiquer qu'il y a d'autres qui les représentent, qui sont venus chez nous et qui nous représentent dans nos régions. Ça peut être une spécificité. La seconde spécificité peut être géographique. Et on a l'exemple chez nous. Quand vous prenez la plaine de Meaux, la plaine de Meaux est tellement enclavée que pour y aller, c'est difficile. Et on peut dire que même si on a fixé le quota à 100 000, que pour la plaine de Meaux, même s'ils ne sont que 40 000, il faut leur donner ces deux députés. Donc ça devient une rare spécificité géographique. Et ça reste comme ça jusqu'à ce que, quand vous prenez l'exemple de la plaine de Meaux, elle est symptomatique. Les études géographiques ont prouvé que la plaine de Meaux restera difficile d'accès jusqu'à ce qu'on ouvre un tunnel. Parce qu'il y a une partie de la montagne où on peut ouvrir un tunnel. Quand vous ouvrez le tunnel vers la plaine de Meaux, à environ 10 minutes, vous êtes dans la plaine de Meaux. Le jour où on ouvrira ce tunnel-là, on dira que cette spécificité n'existe plus parce que l'accès est facilité par le tunnel. Voilà ce que nous connaissons. Et je vous ai dit que nos textes le prévoient. Quand vous prenez le texte sur la décentralisation, l'article 86 dit « Le nombre de conseillers par commune est fixé comme suite. 11 pour les communes dont la population est inférieure à 50 000. 15 pour les communes dont la population est composée de 50 000 à 100 000. 19 pour les communes dont la population est comprise entre 101 000 et 150 000, etc. La même chose est prévue pour les élections régionales, où vous pouvez lire pour les élections régionales, on fixe le nombre qu'il faut pour une région qui a telle population et telle. Les régions, ce qui est pire et qui est paradoxal, c'est que les régionales ont la même circonscription électorale aujourd'hui que les législatives. Alors, pourquoi faire glama-glama pour Kodjo et faire bon pour Kofi? Pourquoi ils font ça? Les critères qui ont veillé à répartir les sièges, qui sont répartis par préfecture, parce que les circonscriptions électorales pour les régionales aussi, c'est les préfectures. Les circonscriptions électorales pour les législatives, c'est les préfectures. Pourquoi sur le même registre, sur le même comportement électoral, on prend les régions et on dit que ceux qui ont de tel à tel ont tel nombre de députés, ceux qui ont de conseillers régionaux, et on vient chez les députés et on fait du gerrymandering. On coupe, on prend une préfecture qui a 167 000 habitants, on monte son chiffre de 3 à 4 députés, on vient, on prend une autre préfecture qui a 223 000 habitants et on descend, on garde son chiffre à 3 députés et pire, on va dans le Zion, dans une préfecture qui est allée jusqu'à 500 000 habitants et on lui garde 4 députés. On prend une préfecture qui a 167 000 habitants et on lui donne 4. Ça veut dire que lui, il a environ 44 000 pour avoir un député. Vous allez dans le Zion et vous prenez 500 000 habitants et vous lui donnez 4. Ça veut dire que eux, ils ont besoin de 125 000. Trois fois le chiffre de l'autre pour avoir un député.
Alors, l'autre sujet qui fait polémique, bien sûr, c'est la question de la caution. La caution qui a été augmentée maintenant à 500 000 et de moitié même d'ailleurs pour les femmes. Et finalement, comment vous appréciez cela? Parce qu'il y a des gens quand même qui trouvent que c'est exagéré.
Ça aussi, c'est un dommage. J'ai écouté le même politicien dire la dernière fois que la politique, c'est une question d'argent. J'ai été stomaqué. J'ai dit, c'est des gens que je connais.
Mais est-ce que vraiment ce n'est pas, cause, ce n'est pas des moyens, la politique?
La politique, ce n'est pas une question d'argent. À partir du moment où l'argent rentre dans la politique, ça devient de la perversité. Nous avons la preuve. L'affaire Big Malion. S'il n'y a pas d'interdiction qu'il ne doit pas y avoir autant d'argent en politique, pourquoi on fait un procès à Nicolas Sarkozy qu'il a dépensé trop d'argent? Qu'il est indigne en politique. Comment des politiciens togolais peuvent se lever et dire que la politique, c'est une question d'argent? Que la politique soit une question d'argent, c'est la perversité. Parce que les compétences... Moi, j'ai été député à l'Assemblée. Et je vous dis, les compétences qu'on développe là-bas, ceux qui ont pu travailler là-bas, ce n'est pas ceux qui ont de l'argent. Si vous vous rappelez de notre législature, qui fait partie de l'une des législatures qui a été félicitée, quand tu prends ceux qui ont travaillé, je laisse ma personne, parce que c'est difficile de parler de sa personne. Quand tu prends Docteur Kampatib, tu prends Isabelle, Manavi, comment on appelle le nom? Amegambi. Oui. Et tu prends Tignopa, qui est de l'UNIR. Il y a une dame de l'UNIR.
Oui.
Tu prends ceux-là, ce ne sont pas les plus riches. Mais la plus grande partie du travail, c'est eux, c'est nous qui avions travaillé cette assemblée-là, et tous les Togolais disions, assemblée Wanya, comme la première assemblée des maîtres à Bouibo. Ce ne sont pas les riches, les enfants Renoumadi, etc. Ce ne sont pas les riches qui ont fait le travail. Moi, je vous dis, dans notre assemblée, il y avait des gens qui étaient des richissimes. Ils avaient de très grandes affaires, etc. Je ne les ai jamais vus parler jusqu'à la fin de la législature. Je vous assure tout. Mmh. C'est nous qui avons fait le travail, et c'est comme ça. Donc, la politique ne devait pas être une question d'argent. C'est la perversité. À partir du moment où c'est l'argent qui fait la politique, ça devient de l'achat de conscience et c'est de la perversité.
C'est de la perversité.
C'est la compétence qui fait la politique.
D'accord. Alors, c'est vrai, il nous reste seulement que 2 minutes, mais j'aimerais que vous disiez un tout petit peu quelque chose sur la CDAO. La CDAO qui est en quelque sorte dans l'impasse depuis un temps. On se souvient même d'ailleurs de ces 3 pays qui ont quitté la CDAO avec ses conséquences, bien sûr. Je veux bien parler alors du Burkina Faso, du Mali et aussi du Niger. Et aujourd'hui, comme le dirait quelqu'un hier, qui peut sauver la CDAO? Est-ce que la question ne mérite pas d'être posée, Jean Kissi?
Non, je crois que Yacoub Gowon a posé les bonnes questions. Hein. La CDAO a besoin d'être réformée, profondément. Profondément, elle a besoin d'être réformée. Vous savez, moi j'ai prédit ce qui se passe à la CDAO là. J'ai prédit ça, c'était quelle année? Je crois que c'était début 2019 sur Victoire FM. Je vais voir si Joachim peut rechercher l'émission là. J'avais dit la CDAO allait avoir des problèmes. Et les problèmes de la CDAO vont venir de la façon dont il a géré la crise Tipi au Togo. Ce qu'ils nous ont fait là, j'étais convaincu. Mais il y a nous avons au Burka que expliquez-moi ça en français qu'ils vont en subir les conséquences un jour. Voilà, ils vont être rattrapés par les faits un jour. Et ça n'a pas tardé. Moi, je crois que la CDAO a besoin de grandes réformes. Et peut-être si les leaders nous écoutent, la première réforme ou la principale dont la CDAO a besoin, c'est de donner le pouvoir qu'il faut au Parlement de la CDAO. C'est-à-dire que ce ne soit plus un conglomérat des chefs d'État. Mais la CDAO est un parlement, de donner le pouvoir au parlement de la CDAO de réguler ce que les chefs d'État font. Sinon, eux-mêmes, ils s'asseyent dans leur salon et ils font n'importe quoi. Parce que quand le pouvoir est donné au parlement, reconnu par l'Union européenne, reconnu par l'ONU, reconnu par l'Union africaine, que c'est le parlement en dernier ressort, lorsqu'il y a des problèmes, qui se prononce, le parlement de la CDAO, qui se prononce, ça aura de l'effet. Parce que, vous savez, toutes les décisions de justice de la CDAO, quand ces décisions sont prises, elles ne sont respectées par aucun État. Comment eux-mêmes, ils veulent sauvegarder la CDAO si eux-mêmes ne respectent pas? Combien de procès on n'a pas fait pour le Togo? Pachao, et l'affaire UFC, ANCO, et beaucoup de procès là. Magla, rappelez-moi les procès. Bojonao, voilà, c'est ce que j'ai dit, député UFC, ANC. Jamais rien n'a été respecté. Parce que la justice de la CDAO, oui, mais ce qu'on a demandé de faire, ce n'est pas une affaire pécuniaire. Là où on a demandé de... Voilà, la dernière en date, c'est le Agbeyome. Agbeyome, on lui a rendu justice à la CDAO. Mais est-ce que ça a été exécuté? Donc, si on ne trouve pas une instance à partir de laquelle on régule et que les États doivent respecter la décision de la CDAO, qu'est-ce que la CDAO va donner?
La CDAO ne donnera rien, selon ce que vous venez alors de développer. Alors, il est déjà midi, et je pense que nos compatriotes nous ont écoutés, hein, et même d'ailleurs ceux qui sont hors du pays nous ont écoutés, et maintenant nous allons leur donner la parole de s'exprimer aussi sur un certain nombre de sujets débattus ici au Club de la Presse de ce jeudi. Et donc, mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114. Premier auditeur en ligne. Allô.
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Vous Ça va bien. Et aussi vous.
D'accord, ça va aussi bien. Le nom c'est.
Je vous appelle de Daravé.
Daravé. Votre nom c'est.
Mon nom c'est Dodi.
Dodi, allez-y, Dodi.
Je remercie l'honorable qui s'y est.
D'accord.
Avec vos confrères qui est avec vous.
D'accord.
Bon. Le débat de ce matin m'a beaucoup plu. Et je remercie encore Ambroise aussi. Il faut qu'il travaille comme il est. Monsieur Ambroise, nous ne voulons pas avoir peur de quelqu'un. C'est Dieu qui t'a donné la vie du travail. Il faut travailler pour la nation togolaise. Et nous sommes tous derrière vous. Et j'aimerais poser la question à notre honorable. Concernant les problèmes qui ont au niveau de leur parti là.
Oui, Dodi.
Il ne serait pas possible de se présenter avec d'autres partis pour faire coalition. Parce qu'on a besoin des gens comme ça au Parlement prochain.
D'accord.
Dieu la bénisse.
Merci beaucoup, Dodi, depuis Daravé. 22-21-33-74.
Allô? Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oh, je veux dire, c'est Évangéliste Senghor.
Oui, Évangéliste Senghor. Il y a
je
un peu de bruit.
Je salue mon informaticien qui suit. Bonjour, mon frère. Comment vous allez?
Je vais bien. C'est qui?
Évangéliste Senghor.
Ah oui, bonjour, bonjour.
Voilà. Bon, monsieur Kissi.
Oui.
Est-ce que ton pays, qui est notre pays, va bien? Est-ce que votre pays et mon pays, le Togo, le chef Togo, va bien? Mais aujourd'hui, la crise.
Évangéliste Senghor.
À la seconde.
Évangéliste Senghor.
Les hôpitaux, ça ne va pas.
Oui, Senghor.
Bon, je voudrais aller au sujet du jour.
Oui.
Où aujourd'hui, ce qui se passe, je ne sais pas si l'opposition togolaise est au courant de ce qui se passe, parce que tu vois. Mais,
Évangéliste Senghor,
le gouvernement togolais.
Senghor, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, Senghor.
Voilà.
Oui, il semble que votre radio à côté de vous, vous devez diminuer le volume.
Je suis au téléphone là.
Bon,
je dis.
Oui, allez-y.
Mais voilà que. Il y a une situation dans votre pays à son pouvoir. Où on assassine des gens, on tue des gens. Bon, voilà que le premier responsable. Bon, vous savez, en France, Macron peut être au dernier pays du monde et il apprend qu'un Français est décédé ou il y a un problème en France, il est obligé de revenir. Mais pourquoi nos chefs d'État africains, surtout au Togo, où mon grand-père Ponya Simbé est dans le silence, où les gens meurent à saute voix, assassinent des gens, on tue des gens, et le gouvernement, personne ne parle. Mais ce n'est pas bien. Bon, voilà maintenant ce qui se passe. Nos hôpitaux, leur mandat, nos députés plutôt, leur mandat est à terme. Ils vont partir bientôt. Durant les 5 années, qu'est-ce qu'ils ont fait de fond, où ils n'ont même pas interpellé les gens qui ont déclaré l'argent. L'OTR avait 17 milliards à la personne du ministre à l'époque. Bon, voilà les 27, les 26 milliards, l'argent. Et aujourd'hui, on se tait avec ça. Mais, tant qu'ici,
Merci beaucoup, Évangéliste Senghor, 22-21-33-114. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va, je salue le plateau.
Oui, le plateau vous salue aussi. Le nom c'est. C'est qui?
Monsieur Mahouto.
Mahouto, allez-y.
Oui. Monsieur Kissi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Maintenant, bon, alors, tous les dysfonctionnements que vous avez éliminés sur l'antenne maintenant, par rapport à ce que au Togo. Le pouvoir va agir comme ça. C'est comme ça que nous sommes au Togo. Est-ce que vous pensez maintenant faire les coalitions pour sauver un petit peu quelque chose à l'Assemblée nationale? C'est ma première question. Deuxième préoccupation.
Oui.
Hier, je posais la question aux journalistes. Ils ne m'ont plus répondu. Sur la CDAO. Si la CDAO est devenue. Parce qu'il s'est pétrisé. Vous ne voyez pas que le Togo tout ça, a contribué. Parce que pourquoi je dis ça? Tous les coups d'État, soit qu'on soit conscient ou électoral, ça a commencé au Togo ici. Moi, je l'ai vécu en live. Et il n'est pas temps que les journalistes en parlent pour que ça change un peu au Togo.
On continue d'en parler, Mahouto. 22-21-33-114. Allô?
Oui. Allô.
Bonjour.
Bonjour, c'est Pélé.
Oui, c'est.
Pélé.
Oui, Pélé, allez-y.
Oui, honorable, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Pélé.
Ok, bon, je pense que. On a compris. Comme. Aujourd'hui, c'est 4 ans jour pour jour qu'on a été aux élections. Le RPT venir est dans sa logique. C'est-à-dire, il a réussi une partie, M. Jean-Pierre. Le RPT a réussi une partie. Il cherchait à enlever dans la tête des Togolais, les élections ne sont pas bonnes. Quand vous allez aux élections, ce n'est pas une bonne chose.
C'est-à-dire la stratégie est qu'il faut aller à une élection bâclée pour l'opposition boycott, puis eux, ils sont avec. Vous voyez? Donc cette stratégie-là, je pense que le peuple togolais a compris. Et le 29 avril 2023, le peuple était debout pour aller se recenser. Maintenant, le recensement, on a vu comment ça s'est bâclé. Et tous les plus actuellement, on voit comment, spontanément, le gouvernement seul s'est saisi pour donner le programme à la place de la CENI. Et même, la question que je voudrais poser à M. Jacques, qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez la stratégie du CPC dans notre processus électoral? Merci
beaucoup, Pélé. 22, 21, 30, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
C'est Niamavo, je vais bien.
Oui, Niamavo, allez-y.
Je salue le grand frère Jean Kissi.
Merci, merci.
Oui, les idées comme ça, c'est bon. On prie que rapidement, il y a alternance qui est de bonnes choses au Togo. Il ne faut pas qu'il se fatigue vite comme mon frère Nicolas Lansol, qui a de bons projets, mais ça ne prospère pas. Et vous allez voir que moi, je constate un FIP, comment j'appelle FIP, Front Interpolitique. Qui s'arrête au niveau de l'opposition n'a pas tellement accès dans le nord. Et M. Jankissi, quelle action concrète vous pensez faire pour garantir la vie des opposants qui sont dans le nord? Parce que moi, je sais ce que je dis, parce que la vie est à risque à un Togolais. S'il est au nord, il dit qu'il fait partie de l'opposition. Alors, à ce propos, il y a Aimé Gogué dans les savanes, il y a Sona Traoré, il y a Kouchanyaou dans Centrale, vous êtes là, à Djamagbo, à Pivon Dodi, mais vous faites une coalition, nous sommes derrière vous. Quels que soient les calculs mesquins du parti au pouvoir, c'est pour ça qu'ils ont peur, ils cachent le calendrier, ils cachent les dates. Faites une coalition, vous verrez que nous, les yeux fermés, nous allons vous désigner pour de bonnes choses au Togo. J'entends dire les Amazones. Vous voyez, une île grandit, hein, c'est un petit arbre qui grandit. Les ONG Amazon, là, moi, je prends ça comme une FT d'attente. C'est les femmes qui veulent soutenir une île. Merci.
Merci beaucoup, Niamavo.
Je remercie Yacoubou Gouane.
Oui, d'accord. Merci beaucoup, et Niamavo. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir, hein, sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Kamala.
Oui, comment vous allez?
Allô? Oui. Richard depuis Copenhague.
Ah, Richard, notre ami Richard depuis Copenhague. Allez-y.
Oui, j'aimerais poser une question par exemple ici, mon frère à Kissi.
Oui, donc, allez-y.
Aujourd'hui, il est sur Canada FM. Il vient sur la chaîne en tant que membre de part ou bien il est devenu individuel. Et si demain il allait se présenter à l'initiative, est-ce qu'il va se présenter en tant que indépendant,
vous l'avez dit.
En tant que parti ou bien privé. Bon, à un moment donné, je voudrais ajouter quelque chose. Il ne faudrait pas comparer la démocratie occidentale et la démocratie africaine. Parce qu'il a dit quelque chose, il a comparé la France. Et le Togo. S'il vous plaît, c'est une position que j'ai refaite beaucoup. Et ajouter aussi, il y a quelqu'un qui disait qu'au nord, il n'y a pas de politiciens. Véritablement, c'est un politicien qui est de l'opposition. Il y a beaucoup qui sont au nord, qui sont de l'opposition. Je m'excuse. Merci.
Merci beaucoup, Richard, depuis Danemark. Merci d'être toujours fidèle à Radio-Canal FM. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Nous sommes toujours avec l'honorable Jean Kissi. Il est avec nous. Allô? Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, Daïsi, bonjour.
Oui, c'est ici.
Oui, allez-y.
Voilà. Depuis 2020, là, on appelle tout le monde, tous les politiques, tout le reste, docteur. Docteur, on appelle tout un beau monde, là, des docteurs, machin, tout ça, là. Et puis, nos députés, honorables, excellences, machin, tout ça, là, est-ce que ces noms-là existent en France? Est-ce même autorité, jusqu'à ce que les gens deviennent, sont devenus autoritaires sur nous? Vous pouvez pas arrêter ça au Togo, en Afrique, pour qu'on évolue? Arrêtez ces noms-là, fantaisistes, quoi. Il s'agit pas de ça. Bon, je vais demander à Kissi. Mais je ne comprends pas. La constitution, on a une constitution, non? Ça a été brûlé ou quoi? On a dit 2 mandats de 5 ans. Et tu passes la main. Et puis d'autres organisent les élections et tout. Je vois que depuis 60 ans, là, le même régime organise les élections tous les 5 ans. En catimini en plus, et puis on vous appelle à des meetings, à des CPDC, tout ça là. Pourquoi vous ne portez pas plainte pour la haute trahison, pour qu'on ait la paix, quoi? On veut alterner, on veut évoluer, hein, la médaille, bon, quoi. On veut évoluer. Comment se fait-il que vous ne portez jamais plainte pour arrêter ce désordre? Merci. Et puis, je vais mettre un mot pour Gowon, là. Il paraît que Gowon a réagi, il dit encore, il a réagi. Oui. C'est parce qu'il a fait son coup d'État, on l'a pas inquiété, qui dit de ménager les poutistes. Les poutistes nous ont déstabilisé l'Afrique, surtout le Togo, là. Vous avez vu depuis 63, là, ce qu'on vit, là, c'est à cause du coup d'État, là. Merci, il faut arrêter ça.
Merci beaucoup, madame. Ici, 22 21 33 114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Le nom, c'est?
C'est Fodo Atiegu.
Fodo, depuis Atiegu.
Oui.
Allez-y.
Je salue le plateau.
Oui.
Et je salue monsieur Jean Kissi. Et je vais vous demander, depuis en 2018, qu'ils ont fait boycotter là, pour l'élection 2018. Législatif. Ils ont fait une délégation pour aller chez Alpha Condé. C'est ce que Jacques aussi a participé à cette délégation. Et depuis là, ils n'ont pas. Oh, les oppositions n'ont pas dit aucune et aucune.
Oui, Fodo, allez-y.
Allô?
Oui, nous vous écoutons, allez-y.
Oui. Il n'a pas, depuis là, il n'a pas fait aucune conférence de presque ce qu'Alpha Condé dit. Il n'a pas dit ça. Ils ont pris l'argent chez Alpha Condé de 6 millions pour qu'il n'a pas de l'argent pour aller à l'élection législative.
Mais est-ce que vous avancez, est-ce que vous avez les preuves?
Oui.
Vous avez les preuves? Vous étiez là avant qu'on leur a donné de l'argent?
Attends, je vais parler.
Oui,
les 30 millions, ils ont pris là. Et c'est à ce temps-là que les C14 est disparu.
Ils ont partagé. Merci beaucoup et bonne journée. 22 21 33 114 91 36 63 75. Si vous avez des questions, surtout des questions pour l'honorable Kissi, je pense que ce serait les bienvenus de ces questions. Allô. Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, comment vous allez? Le nom, c'est... Oui, le nom, c'est...
Allô?
Oui, votre nom.
C'est l'évangéliste
Senghor. Ah, c'est l'évangéliste Senghor qui revient, oui, rapidement.
Bon, ok. Et moi, je voudrais parler de ce qui se passe tous les temps. Position. Parce que, bon, aujourd'hui, les gens ont pu.
Évangéliste Senghor, nous avons du mal à vous écouter. Oui. Non, nous avons vraiment du mal à vous écouter. Et voilà, je pense que nous allons recevoir notre dernier auditeur en ligne. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, ma directeur.
Oui, Papa Sibiti.
Bonjour, mon député.
Bonjour, Papa Sibiti.
Je voudrais demander quelque chose à tous les Togolais. À vous-même. Pardonnez-moi. Vous savez, vous parlez toujours des coups d'État. Coup d'État. Et que vous avancez toujours mon pays, notre pays, le Togo, que c'est lui qui a fait le premier coup d'État. Non. Avançons. Si vous prenez le Ghana, celui qu'on admire aujourd'hui, paix à son âme, Rollis, quand il est venu, combien il a mis et dans un même trou. Mais les Ghanais ne crient pas. Nous tous, avançons. Mon député, faites ce que vous pouvez faire pour qu'il y ait entente dans ce pays. Les élections, c'est ça. Il faut que les Togolais aient un cœur pour cesser de faire de la cisanie, surtout les jeunes. Il y a certains, si le CAR, on veut que le CAR gagne, si le CAR n'a pas gagné, c'est les militaires, excusez-moi, hein, c'est un exemple. Certains militants qui vont venir semer du désordre, de la violence, c'est ça. Et en fait, tout pour qu'il y ait la paix après les élections, le cœur, entretenez vos jeunes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti. Je pense que Papa Sibiti, c'est le dernier auditeur hein, pour le compte de l'émission d'aujourd'hui. L'honorable Jean-Kissi, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer hein, sur les sujets débattus ici au Club de la Presse et aussi des questions. On vous a posé beaucoup de questions. Je pense que vous avez noté aussi un certain nombre de ces questions. Si vous pouvez revenir, même d'ailleurs, avec des réponses, et ce serait vraiment très intéressant.
Le temps est très court. Il y a eu plusieurs questions, mais heureusement... Il y a des questions qui se recoupent.
Tout à fait.
Il y a eu 8 intervenants et 4 intervenants ont parlé d'un sujet. Et je le considère comme une interpellation. C'est la synergie ou l'union de l'opposition.
Tout à fait.
Que 4 intervenants sur 8 ont dit « J'ai écouté. J'espère que mes grands frères et mes grandes sœurs écoutent ce que la population dit et ce que la population demande. » Il y a quelqu'un qui a été même plus précis et qui a dit, attendez que je regarde, hein, je crois que c'est Pelé, qu'à partir de Blita, l'opposition a plus de problèmes de pénétration dans le Nord. Et que, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fera pas coalition? Est-ce qu'on ne fera pas une union? Je crois que cette interpellation est logique. Moi, je ne comprends pas. Nous savons faire des lectures. Dans tous les pays qui ont notre situation et qui sont difficiles, là où ils arrivent à réaliser le bon en avant, c'est là où il y a eu synergie de l'opposition. Quand vous prenez Yewi Askanoui au Sénégal, et vous dites, aujourd'hui, si Macky Sall n'a pas eu son troisième mandat, il ne pourra pas l'avoir. C'est parce que il y a eu Yewi Askanoui au Sénégal. Et qui ont fait coalition avec Walou. Mais ce qui est pire, c'est que dans les listes qu'on a positionnées au Sénégal, il y a la liste des titulaires qui est un lot à part et la liste des suppléants. Macky Sall a été jusqu'à annuler la liste des titulaires, il a gardé la liste des suppléants. C'est pour ça que Sonko et autres ne sont pas députés, mais ils ont accepté. Que même si c'est ça là, la coalition est là, ils vont aller. Et ils sont allés, Yewi Askanoui et Walou Sénégal ont fait le même score que Macky Sall. Le score ayant été équilibré, c'est avec ça qu'ils ont joué pour que Macky ne soit pas aujourd'hui candidat. Pourquoi Sonko a accepté que quelqu'un d'autre de son parti soit candidat? C'est que lui, il a dit son combat là. C'est qu'au Sénégal, on n'attend jamais qu'il y ait un troisième mandat. Et qu'à partir de ce moment où son combat a permis à Macky Sall n'est pas candidat, que lui, même s'il n'est pas candidat, que ça ne le dérange pas. Et c'est pour ça qu'il a accepté que quelqu'un d'autre y aille. Vous croyez que si c'est au Togo, et on dit que Sonko n'est pas candidat, il va accepter qu'un de ses lieutenants soit candidat? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Quel est cet instinct personnel où c'est moi? Si ce n'est pas moi, c'est l'autre, alors que nous tous nous sommes bouffés par la même chose. La population ont dit, et les faits sont têtus. Je crois qu'il faut que nous écoutions. Le Togo nous a donné plusieurs exemples. CST, c'est parce qu'ils étaient un bloc par rapport à tout le reste de l'opposition, qu'ils ont pu faire un score en ce moment. CAP 2015, c'est parce que c'était CAP 2015 et non un parti qu'ils ont pu faire. La DMK la dernière fois, tous les événements nous ont montré que c'est lorsqu'il y a un groupe qui est uni, ils ont l'impression qu'il y a un brin d'union quelque part, que le Togo se prononce. Les gens accusent les Togolais, mais il ne faut pas accuser les Togolais. Moi, le peuple togolais est l'un des peuples les plus intelligents. C'est un peuple spontané. Quelquefois, quand on est là, on croit qu'il ne peut plus réagir. Boum, c'est là qu'il réagit. Vous avez vu le fait Tipeee. C'est un peuple spontané et c'est un peuple qui réagit en masse. Vous allez voir que sur toutes les élections, que ce soit l'élection pour Agbo Ibo en 94, pour Jikrist en 98, pour le FRAC, pour le CAP 2015, comme pour la DMK, le peuple togolais a réagi de la même façon. Il a surveillé. Et c'est là où les gens sont unis, ils ont une synergie. C'est vers là qu'ils sont prononcés. Qui puisse, comment on dit ça, qui puisse entendre, ou bien qui a des oreilles pour entendre, entendre. Voilà.
D'accord.
Alors, il m'a demandé, peut-être, on peut répondre rapidement, et c'est monsieur de Copenhague qui a demandé, voilà, sous quel titre j'interviens aujourd'hui.
Ouais.
Non, je suis secrétaire national du Bureau national transitoire. Donc, il y a un bureau dissident, on est deux aujourd'hui, et l'affaire est pendante devant la justice. Si la justice tranche, je respecte. Si la justice nous prend le parti et leur donne, je respecte, je vais faire autre chose.
Voilà.
Mais, voilà. Si la justice nous donne, je garde le poste et on réorganise le parti.
Alors, et, le deuxième volet de sa question, oui. c'est de savoir s'il arriverait que vous participiez aux élections prochaines, c'est sous quel coupole? Est-ce que ce serait, vous irez en tant qu'indépendant ou bien c'est toujours avec le CAR?
J'ai travaillé pendant un temps qu'il y ait cette synergie au sein de l'opposition. Depuis qu'on est là, moi j'ai continué à travailler, hein, qu'on aille aux élections en bloc ou même à des unions au cas par cas. J'y ai travaillé. Depuis jeudi dernier, aujourd'hui, une semaine, un groupe de jeunes et un groupe de la société civile nous ont encore sollicité. Est-ce qu'on ne peut pas sauver les meubles en ces derniers temps-là? Là où on sait que le pouvoir considère que c'est ses fiefs, mais qu'on sait que les partis ont des difficultés à évoluer, mais des partis pris ensemble peuvent faire quelque chose, on est en train de faire ce travail-là. Moi, ma volonté, c'est que dans ces genres d'ensemble, au cas par cas, circonscription électorale, pas circonscription électorale, on aille à ces élections. Mais au cas où ce n'est pas fait, et que le 28, l'affaire CAR aussi n'est pas tranchée au tribunal, je serai obligé de trouver un moyen pour aller pour être présent à ces élections. De toute façon, les populations m'attendent. D'accord. Donc, je vais réagir, parce que les gens ne s'en fassent pas. Mm. La dernière chose que je voulais, la question que je ne pouvais pas laisser, c'est, les gens ont pris de l'argent chez Alpha Condé. J'ai pas été en Guinée, chez Alpha Condé. J'étais pas dans la délégation. Mais suivant les informations que j'ai reçues, il n'y a pas eu question d'argent en Guinée. Quand l'affaire de la Guinée, ils allaient en Guinée, j'étais à Accra. Vous vous souvenez, Guinée est venue après qu'on s'est battu à l'Assemblée parce qu'on voulait donner un à l'UFC. Après ce truc-là, moi, on m'a appelé à Accra, les conseillers de Nana, pour que j'aille expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Donc j'ai été à Accra, c'est les explications données, le travail fait, et avant que moi je ne revienne d'Accra, le truc a été décanté, on a dit on va avoir les 8, mais que c'est en Guinée qu'on allait l'obtenir. Mm. Donc j'ai pas été en Guinée. Même ce qu'il dit de 30 millions là, je crois que c'était avec le type de la Côte d'Ivoire, ce n'était pas...
Le président Ouattara?
Oui, je crois que c'est quand Ouattara était venu à Lomé. D'accord. J'étais pas dans la délégation non plus. Okay. Mais les gens se sont expliqués là-dessus. Mm. Donc, je crois pas qu'il y a eu de l'argent en Guinée.
Merci pour beaucoup, honorable Jean Kissi. Chers confrères, nous avons 30 secondes pour faire un tour de table. Rapidement, 30 secondes chacun. Ambrose?
Moi, mon 30 secondes, c'est le dossier examen nationaux du ministre de l'Enseignement supérieur, Iou Ouattéba. C'est un dossier qu'il a lancé, mais aucun acteur n'est intéressé. D'abord, je rappelle qu'il a pris, pas un arrêté, un communiqué, pour supplanter un décret de 2008 qui consacre, ou bien qui crée le LMD, comme dans tous les pays anglo-saxons et francophones. C'est mondialisé, quoi. Nous sommes plus dans le système classique. Maintenant, après le décret, il y a eu une loi 2017 qui vient conforter ce décret 2008. Maintenant, notre ministre vient pour balayer tout ça de revers. Aucun acteur n'accepte. Les deux universités publiques n'ont même pas voulu entendre parler de ça. Maintenant, il les a laissés ici à la copouter sur les privés. J'ai consulté au moins 5 promoteurs d'écoles privées. Tous ne sont pas d'accord. D'accord pour discuter de la réforme, mais pas à pas de charge, surtout unilatérale. Discutez avec nous, pas cette année. Mais renvoyons, faisons un moratoire pour voir ce qui est faisable.
Voilà, merci beaucoup, Ambrose. Merci. Oui. Et Mangula, rapidement, 30 secondes.
Oui, mais 30 secondes, je vais les consacrer plutôt à deux de nos articles. Un qui parle de la pêche au Togo avec une grande contradiction qu'il y a aujourd'hui entre les chiffres qu'on avance et les réalités sur le terrain. Malheureusement, on n'a pas le temps. Mais il y a également un autre article que nous avons fait sur l'effet des réseaux sociaux, notamment le TikTok, sur la jeunesse, les dérives qu'on constate maintenant sur la vie sociale. Et je vais tout simplement inviter les auditeurs à se procurer le journal Flambeau Paris.
Merci beaucoup. Et voilà, Jean Legrand pour le Rini.
Oui, également, je vais inviter les lecteurs à se procurer notre journal pour lire deux articles, notamment un article sur la médiation de Fogna Simbé au sein de la CDAO, intitulé « Fogna Simbé souffle le chaud et le froid ».
D'accord.
Et le deuxième article, c'est la tribune publiée par...
Oui, merci beaucoup Jean. Alors, nous sommes à la fin, puisque nous sommes talonnés par le temps, nous sommes à la fin de cette émission. Jean Kissi, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous recevoir.
Aussi,
merci beaucoup Ambroise. Merci Barbara. Merci à toi Jean Paul Erini. Merci Michel Tomega d'avoir assuré la mise en onde de de cette émission. La mise en ligne a été assurée par Jero Akucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Au revoir.